RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur les antennes de France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors ensemble, nous recevons Julien Drey. Bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir sur ce plateau.
Merci.
Vous êtes conseiller régional du PS en Ile-de-France et porte-parole du Parti Socialiste. Alors depuis 10 jours, à la radio, à la télévision, on vous entend beaucoup, on vous voit.
Oh, votre exagéré, quoi.
C'est pas mal, hein, parce que d'habitude vous faites rare, mais vous avez vos raisons. Donc votre parti, le PS, est à genoux. Il lui faut une thérapie de choc, des idées, un patron, un avenir et puis des électeurs, ça peut servir. Il y a 5 candidats pour l'instant. Au fil de nombreuses interviews, vous ne répondez pas clairement à la question « Serez-vous candidat ou non au poste de premier secrétaire ?» Alors comme nous sommes aussi, nous, un peu lassés de la question, on va vous la poser en chanson avec ce vieux tube des années 70.
Tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas.
Bon, Julien, tu
rien
veux,
à rajouter
tu,
aux
tu
paroles
veux ou tu
de,
veux pas
rien à rajouter aux paroles de Marcel Zanini.
Ah, vous connaissez, oui. Tu veux ou tu veux pas?
Non, la question, elle est simple.
C'est où tu peux ou tu peux pas, en fait.
Mais, oui, la question est simple et la réponse devrait être simple aussi.
Oui, la question est simple, mais je vais y revenir là-dessus. On n'est pas premier secrétaire simplement parce qu'on a envie d'être premier secrétaire du Parti Socialiste. On est premier secrétaire parce qu'on a un projet, parce qu'on a une équipe, parce qu'on arrive à penser qu'on peut sortir ce parti de l'impasse dans laquelle il est. Donc voilà, moi je travaille à ça, je l'ai dit, je discute avec les uns, avec les autres, j'essaye de voir comment on peut avancer. Et vous savez, mon papa m'avait appris cette formule, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est samedi prochain. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs, je le dis d'ailleurs gentiment à tous ceux qui sont déclarés. Je vois pas l'intérêt. On n'est pas dans une campagne électorale.
Mais ce qu'il y a derrière,
c'est pas un casting qu'on essaye de faire. Et d'ailleurs, ceux qui réduisent le congrès du Parti Socialiste à un casting, non, d'après moi, rien compris à ce qui nous arrive.
En fait, vous voulez pas aller à Canossa. Clairement, personne n'a envie d'y aller. C'est-à-dire que vous avez envie de gagner. Donc, vous êtes en train de quoi, de sous-peser, de peser vos soutiens.
Oui, alors c'est pas comment dire, je suis pas en train de supposer. Je veux dire, comment vous expliquer ça? Si à un moment donné j'estime que il faut défendre un certain nombre de choses et que ça passe par le fait que je dois être candidat parce qu'on n'arrive pas à faire avancer les choses, je prendrai cette décision. Là, il y a plusieurs candidats avec lesquels je pense on peut arriver à trouver des solutions intelligentes. Alors, le problème en politique, c'est que des fois, l'intelligence n'arrive pas à gagner. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moi l'intelligent, mais ça veut dire que, franchement, si vous avez un débat, regardez, il y a 2 candidats, dont moi, je suis toujours pas capable de comprendre quelle est la différence. Voilà. Vous avez 2 candidats qui ont la même histoire politique, qui ont souvent d'ailleurs eu des parcours similaires, qui ont été ou conseillers, ou ministres. Quelle est la différence? La différence, c'est quoi? C'est la jeunesse. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut être honnête. François Rebsamen a bien répondu en disant, il y en a un qui a 49 ans, il y en a un autre qui a 53 ans. On n'est pas dans un concours de jeunesse.
Non. Alors, vous dites, c'est pas une question d'envie. On se réveille pas un matin en se disant, tiens, j'ai envie d'être premier secrétaire du Parti Socialiste. Et donc, au fond, pas une question de volonté. C'est pas tu veux ou tu veux pas. Mais si la question, elle avait été posée d'une autre manière à l'époque par Zanini, si ça avait été tu peux ou tu peux pas, qu'est-ce que vous auriez répondu?
La possibilité, elle existe. Il suffit de déposer un texte, d'avoir une signature.
Enfin, bon. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière.
Bon, oui, mais on peut me reprocher plein de choses, mais pas défendre un certain nombre d'idées. Je les ai défendues encore récemment. Je constate d'ailleurs qu'à ce stade-là, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais moi, j'ai essayé de situer le débat sur le plan des idées. Pourquoi les idées? Parce que je pense que l'échec électoral, c'est pas qu'un échec électoral. Voilà, des échecs électoraux, j'en ai connu des durs en 2002, en 93. Mais à l'époque, on savait plus exactement tous que c'était un moment, mais que l'histoire était encore avec nous. C'est-à-dire qu'on allait renaître, on allait repartir. Là, on voit bien qu'on est dans une situation très difficile. Et qu'est-ce qui nous guette? Nous guette des choses qui sont arrivées dans d'autres pays. Le PASOK, qui était le Parti Socialiste grec, est passé de 40% à 3%. Le Parti Socialiste italien a disparu de la vie politique. Ça veut dire que le Parti Socialiste français, il n'a pas une éternité devant lui. C'est pas écrit que certains, d'ailleurs dans ce congrès, on a l'impression, oublient cela. Ils pensent que, de toute manière, c'est un mauvais moment à passer, que les choses vont revenir comme avant. Ben non, ça se passera pas comme ça.
Alors justement, je rebondis sur ce que... Parce que vous faites la liste du socialisme en Europe qui va pas, qui se porte pas très bien. C'est vrai que, par exemple, en Grande-Bretagne, Allemagne, Jérémy Corbyn remonte parce que c'est le Mélenchon. Hein. En Allemagne, les socialistes aussi reculent. Donc, mais, dans le fond, aujourd'hui, quel est l'espace pour...
Mais l'affaire, si vous me permettez, l'affaire allemande est très importante. Ce qui se passe dans le SPD est pour moi très important.
Oui.
Alors, j'ai beaucoup de respect pour la social-démocratie allemande. Au regard de son histoire, de ce qu'elle a apporté au socialisme en général et de la formation que représente le SPD. Mais le débat qu'ils ont, c'est un débat qui dépasse l'Allemagne. C'est un débat qui concerne toute la social-démocratie internationale.
Oui.
Est-ce que nous continuons, d'un certain point de vue, à faire des bouts de chemin, et plus que des bouts de chemin, un compagnonnage qui est plus qu'un Pax d'ailleurs, avec les libéraux, pour être honnête, et avec une partie de la droite, ou est-ce que nous considérons que dans le moment où nous sommes, de la construction européenne, l'heure est venue de se démarquer, de représenter une nouvelle gauche européenne. Et c'est pour ça que, oui, je le dis avec tout le respect que j'ai, et sans vouloir donner de leçons, parce que j'ai pas forcément tous les éléments, mais moi je suis plutôt avec les délégués allemands qui votent contre l'accord avec Angela Merkel, parce qu'ils ont vu le caractère suicidaire que ça représentait pour leur parti. Mais c'est pas la question du SPD, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus le SPD, c'est les populistes qui l'emporte, ouais, en Allemagne. Et c'est ça la question qui est,
oui,
posée.
Oui, mais moi, vous faisais le parallèle avec la Grande-Bretagne et Jérémy Corbyn, qui est en train quand même là de remonter. Et ça nous amène à la France, dans le fond. Parce que la première question à se poser, c'est comment on réinvente le socialisme français aujourd'hui, coincé entre Macron, qui veut refonder la social-démocratie, et Mélenchon, qui incarne, on va dire, la vraie gauche, et celle qui veut nationaliser, taxer, etc. Donc, votre espace à vous, socialiste, il est où?
Notre espace, c'est justement de rester socialiste. C'est-à-dire de rester une gauche de transformation sociale qui accepte l'exercice du pouvoir. Voilà. Le problème de Mélenchon, c'est qu'il n'accepte plus l'exercice du pouvoir. On le voit bien par le maximalisme de ses propositions, et même surtout et avant tout, parce qu'après tout le reste peut se discuter, par sa position européenne. Parce que le Jean-Luc Mélenchon que vous connaissez aujourd'hui n'est pas celui que moi j'ai connu, avec qui j'ai bâti des choses ensemble. C'est-à-dire que nous étions profondément européens. Aujourd'hui, il peut raconter tout... les choses, et d'ailleurs il les raconte souvent bien, mais à partir du moment où il annonce qu'il veut sortir de, qu'il veut rompre avec tous les traités, il annonce qu'il sort de l'Europe. Et ça veut dire que on rentre dans une autre logique. Et comme je ne crois pas, parce que c'est mon histoire, au socialisme dans un seul pays, y compris l'expérience française de 1981 a montré que la rupture, bah, c'était des mots, mais quand on était face à la réalité d'aujourd'hui de l'environnement international, on pouvait pas construire tout seul, bah, je ne crois pas à cette solution-là. Donc il faut défendre un socialisme tel que nous l'avons connu nous, c'est-à-dire qu'un socialisme de transformation. Peut-être que la question de la transformation, elle est posée, puisque c'est vrai qu'avec tout le respect qu'on peut avoir à l'égard du président Hollande et de ce que nous avons fait, il y a un moment donné, on n'a pas bien compris ce qu'on voulait faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le sens politique que nous donnions à notre action, je prends souvent cet exemple-là. Nous avons mis en place quelque chose qui était très important d'après moi, qui était la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie. C'est une grande conquête sociale. Nous avons été incapables de la situer en perspective. C'est-à-dire en disant c'est une grande conquête sociale, c'est un acquis, c'est un bloc historique qui peut se former de droits nouveaux pour les gens. Bon voilà, donc après on n'est que dans la gestion, donc les gens ils comprennent pas. Puis la gestion elle est bien, elle est pas bien, les impôts, pas les impôts, et vous perdez votre sens dans l'histoire, donc votre utilité. Et donc la question qui est posée elle est là, voilà. Ouais. Alors moi j'ai situé le débat du Parti Socialiste, je l'ai situé à quatre niveaux.
Mais attendez, ça on va y venir, oui, vos propositions, etc. Mais d'un mot tout de même, pour comprendre, parce que c'est vrai que c'est difficile, Roselyne l'a dit depuis 10 jours.
Si, un peu,
d'un mot, vous allez voir. Que j'ai pas forcément tort de vous poser la question que je vais vous poser.
Mais vous avez aucun tort.
Le 15 janvier, sur Public Sénat, vous dites, deux points, j'ouvre les guillemets, je suis candidat à une seule chose dans les trois années qui viennent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, remonter cette formation politique qui est la mienne. À l'instant où vous dites ça, vous êtes candidat à cet instant-là.
Moi, je suis un militant. Et un militant, je suis un militant parce que depuis l'âge très jeune...
Et ça veut dire que ça pourrait être à une autre place que celle de premier secrétaire ou de président, puisqu'on va en parler, vous souhaitez être présidence ou co-présidence.
La question de ma place n'est pas importante. Si la question de ma place avait été importante, j'aurais pas eu la vie politique que j'ai eue. Bien des fois, j'aurais pris d'abord mes intérêts personnels avant les intérêts du collectif. Donc j'ai refusé tout cela, tout le monde le sait. Alors on peut me taxer de bien des choses, mais on peut pas me taxer d'avoir joué perso face au collectif, jamais.
Il faut qu'on évoque d'un mot ce qui se passe avec Delphine Batho, qui a assigné le PS en référé auprès du tribunal de grande instance de Paris en dénonçant depuis ces derniers jours la mafia qui contrôle aujourd'hui le Parti Socialiste, qui craint des bidouilles, des tripatouillages. Et ce matin, Luc Carvounas, qui lui-même est candidat, a confirmé que lors des congrès précédents, on tripatillait, on va l'écouter.
Ce que je crois et ce que je crains, c'est que finalement on rejoue les congrès d'hier.
Parce que c'était bidouillé, truqué hier.
Oui, bien sûr. Ah, oui. Abstamen lui-même le reconnaissait chez vos confrères dans une matinale, en voulant me répondre quand je demande le vote électronique, de ne pas m'inquiéter, parce que c'est vrai qu'hier on trichait, maintenant on ne triche plus.
On trichait hier.
Ouais, c'est
Rebsamen. Et là on va tricher.
Je ne l'espère pas.
Moi je pense qu'il y a
rien. Vous êtes au courant?
Je sais ce que c'est que les congrès du Parti.
Bah oui, c'est pour ça.
En fait, d'abord, ça fait très longtemps qu'on peut plus faire les tricheries. Il y a eu, dans les phases précédentes, des choses qui, on l'a vu d'ailleurs dans des congrès qui sont restés fameux. Mais depuis que nous avons mis en place le vote personnel, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de procuration, il n'y a pas de délégation, c'est une femme, un homme, une voix. Et il faut venir voter, il faut venir signer, il faut payer ses cotisations. La marge de manœuvre pour tricher, excusez-moi, ou pour bourrer les urnes, elle est très faible. Et d'ailleurs, depuis maintenant une dizaine d'années, on sait que dans les congrès, c'est de plus en plus difficile de faire les vieilles pratiques, qui étaient les grosses fédérations, qui amenaient les gros bataillons avec les mandats, etc. et tout. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que collectivement, nous n'avons rien à gagner à nous lancer dans une surenchère sur les pratiques. Il faut faire respecter les pratiques démocratiques. C'est élémentaire dans la vie d'un parti socialiste. Je suis pas convaincu que ça soit le drapeau sur lequel on peut se construire.
Est-ce que on a beaucoup dit que le PS était mort, mais moi personnellement j'y ai jamais cru. Je ne sais pas vous. Je pense que les partis comme les hommes sont résilients. Cependant, est-ce que on va essayer de comprendre ce que vous voulez faire d'abord. Si vous êtes, mettons, si vous vous présentez, comment voyez-vous la structure du PS aujourd'hui? On va parler de l'appareil, comment vous le voyez, et après on parlera des idées. Mais déjà dans un premier temps, comment vous imaginez le fonctionnement du Parti Socialiste demain?
Alors il y a 3-4 choses qui sont pour moi essentielles et qui permettraient de faire revivre cette formation. La première, c'est que je pense qu'il faut une coprésidence. Et je pense que c'est moderne que de commencer à instiller cette idée. Cette idée, elle n'est pas nouvelle, mais elle a été mise en pratique de manière formidable par mes camarades de combat, que sont les combattants kurdes en Syrie. C'est eux qui m'ont formalisé ça de manière explicite, parce que toutes les instances dans les territoires qui ont libéré les Kurdes, ça me permet de faire une parenthèse pour dire que ce qui est en train de se passer est dramatique avec les bombardements des mercenaires de M. Erdogan contre les combattants et les combattantes de Daesh. Il y a plusieurs dizaines de morts déjà, et que la communauté internationale ferait bien de s'en occuper. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des bonnes paroles, mais de protéger ces territoires. Je ferme la parenthèse, on y reviendra peut-être. Mmh. Mais voilà. Donc, premièrement, la question de la coprésidence. Je pense que ce serait une image moderne, et puis ça éviterait la personnalisation à outrance du pouvoir, qui est quand même un des grands défauts de la Ve République et de nos formations politiques. Voilà, ça obligerait à coopérer avec quelqu'un qui est à égalité avec vous, et puis ça descendrait dans toutes les instances du parti, et ça irriguerait tout le parti. C'est la première chose. Deuxième chose, alors je remarque que d'ailleurs personne ne veut en parler, mais moi j'ai mis sur la table l'idée suivante. Comme d'ailleurs les travaillistes anglais, un congrès tous les ans, avec droit de censure des militantes et des militants. Alors quand on est
sur quoi sur ce que décide le Parti socialiste ou ce que décide le gouvernement
sur ce que je vais y venir sur ce que sur la feuille de route du parti chaque année les travaillistes anglais font ça à Blackpool tous les ans il y a un congrès du Parti travailliste et si la direction est mise en minorité par les militants à ce moment-là il faut faire un congrès extraordinaire pour élire une nouvelle direction.
Qu'est-ce que ça aurait donné ça si ça s'était fait sous le quinquennat de François Hollande?
Je pense que ça aurait changé bien des choses parce que imaginez que je m'appelle Jean-Christophe Combadélis et que je vais le mardi soir parce que c'était à l'époque le
BN,
le bureau national et puis surtout la petite réunion qu'il y avait après avec le président, les représentants des assemblées, et que j'arrive et que je dise « Bon, écoutez, vous êtes bien gentils, hein, mais moi j'ai un congrès dans 3 mois, la déchéance de la nationalité, c'est sûr qu'elle ne passera pas au congrès, que je vais être censuré. » Je pense qu'à ce moment-là, l'exécutif, notamment Manuel Valls, qui était à l'époque le champion de cela, aurait été obligé de dire « Attention, parce que la question qui aurait été retournée, c'est que c'est toi qui vas être censuré. Moi aussi, mais toi le premier, parce que t'es chef du gouvernement. » C'est la même chose sur la loi El Khomri. Peut-être qu'on aurait pu s'éviter des bêtises. Donc le fait d'avoir ce rendez-vous...
C'est-à-dire que la fronde, elle se fait avant, en fait. On évite de déballer les...
Non, non, ça veut dire que ça change tout le rapport du parti aux institutions. Quand nous gagnons, maintenant, nous avons un parti qui devient le prolongement des institutions, où les instances, en fait, enregistrent les décisions qui sont prises ailleurs. Avec cette formule
Mais quand vous êtes dans l'opposition, ça sert à quoi?
Ça sert à vérifier que la direction s'est bien comportée, a fait son travail. Elle rend compte. Pourquoi est-ce que quand vous avez des congrès tous les 3 ans, quand vous arrivez au bout de 3 ans, on dit bon, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Là, il y a une vie démocratique. Et justement, c'est là où on peut utiliser aujourd'hui les moyens modernes. Parce qu'avant, c'était lourd de faire un congrès, il fallait réunir, il fallait envoyer les textes. Là, vous pouvez faire des choses grâce à la numérisation très vite. Et chaque militant peut voter. Vous avez un système qui peut se faire en quelques semaines.
Comment,
et ça, c'est une vie. Là, quand vous êtes militant, à ce moment-là, vous avez le sentiment que vous avez une prise sur la réalité des choses. Et vous avez, par exemple, beaucoup de militantes et de militants de province disent « on en a marre des Parisiens parce qu'ils décident toujours entre eux ». Bien, grâce à cela, on leur redonne une place. Parce que chaque année, il y a ce rendez-vous et ça change beaucoup de choses.
Quand Emmanuel Macron parlait des fainéants, beaucoup l'ont pris, les Français l'ont pris pour eux. Après, il s'est expliqué en disant qu'il parlait aussi des politiques. Est-ce qu'il y a eu de la flemme intellectuelle au Parti Socialiste?
Oui, c'est sûr. Manière, d'ailleurs. C'est sûr, pas que de la flemme, de la facilité. Vous me direz, ça va avec la flemme. Ouais. La facilité, pourquoi? Parce que on est dans la gestion, on est dans le quotidien, on est pris par l'urgence du quotidien, et nous n'avons pas réfléchi au monde qui a évolué. C'est pour ça que j'ai dit, dans les quatre chantiers très importants que devrait aborder le Parti Socialiste, il y a d'abord et avant tout la numérisation, la révolution numérique que nous sommes en train de connaître, qui va transformer totalement nos vies. Et pour l'instant, nous subissons. Et donc, nous subissons dans une situation qui est encore plus dramatique, c'est que ce système de numérisation a inventé un principe qui est formidable, c'est que nous auto-exploitons. C'est-à-dire que c'est nous qui fabriquons notre propre exploitation. Voilà. Avant, on avait une représentation symbolique, un patron ou une patronne, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les détachements, le système d'auto-entrepreneuriat, etc. Et puis il y a un autre problème qui est posé et qui est d'après moi essentiel, c'est que aujourd'hui vous avez une numérisation qui fait que je le dis, vous et moi nous sommes des algorithmes.
Oui.
Et nous travaillons toute la journée et nous valorisons les sociétés qui utilisent nos algorithmes.
C'est un travail qui ne nous épuise pas.
Voilà, ça c'est, oui, mais enfin, en tous les cas.
Non, mais enfin.
Prenons un exemple.
Pour mettre les choses à leur place.
Vous voulez taxer les GAFA, c'est ça?
Prenons un exemple. Un réseau social qui s'appelait LinkedIn a été vendu 38 milliards de dollars. Ce réseau, c'était 90 personnes dans le monde. Voilà. Il ne gérait que des données. Il a vendu vos données, si vous étiez sur LinkedIn. Il vous a rémunéré. À quel moment vous a rémunéré? Donc c'est une question, d'un certain point de vue, c'est une question de droit d'auteur. C'est pour ça que je dis dans la réflexion que nous avons à affronter ces multinationales qui, par ailleurs, passent au travers de tous les systèmes fiscaux, puisqu'ils font de l'optimisation fiscale, ils ne payent aucun impôt. Eh bien oui, là, il y a un vrai combat. Et ça, c'est un combat de gauche. De dire, face aux multinationales, chaque citoyen doit désormais avoir une rémunération, ses droits d'auteur, sa vie. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que j'ai proposé.
On va y revenir spécifiquement.
Taxer les GAFA,
oui. Ne taxer pas que les GAFA, l'ensemble des sociétés qui fonctionnent avec ces systèmes numériques.
Pas tout à fait, je crois.
Pas enfin, tout à il me fait, semble que, oui.
D'un mot, alors, parmi les choses importantes pour vous, il y a aussi des militants mieux formés. Vous voulez, pourquoi? Au fond, ce sont des militants plus engagés quand ils sont mieux formés?
La question de la formation, c'est une question essentielle. Si les militants sont que des spectateurs, d'abord, ils sont pas acteurs sur le terrain. Or, moi, je voudrais, plus exactement, un parti qui soit présent. Si nous mettons en place la bataille pour, justement, cette dotation universelle, ça veut dire qu'il faut construire un mouvement social. C'est pas simplement moi tout seul. Construire un mouvement social, ça veut dire des militants actifs, sur les réseaux, dans les quartiers, sur le terrain. Pareil, nous sommes maintenant soumis simplement au calendrier électoral. On voit les militants que pourraient désigner des candidats. Moi, je suis pour revenir sur le terrain. Ça veut dire, effectivement, les former pour être présents dans les réseaux sociaux, pour mener la bataille sur les réseaux sociaux. Parce que là, la bataille idéologique, une partie importante se mène. Je suis pour que nous ayons à nouveau un journal, parce que je suis pas pour opposer les anciennes formes de militantisme aux nouvelles. Je pense qu'il faut refaire des corners sur les marchés avec un petit journal qu'on peut numériser là aussi et qui permettrait d'avoir ce contact direct. Et ça permettrait de faire remonter beaucoup d'informations. Puis ça permettrait de mener un combat quotidien parce que nous avons perdu des batailles idéologiques. Nous avons laissé s'installer une idéologie qui n'est pas la nôtre. L'idéologie du chacun pour soi, du l'homme est un loup pour l'homme. Eh bien, il faut être présent à nouveau.
Julien Drey, vous, président ou co-président du Parti Socialiste, oui.
Oui, ça oblige un peu de modestie.
Y aurait-il une primaire pour choisir le candidat à l'élection présidentielle?
Oui, il faudra trouver, oui, parce que je pense que c'est un exercice démocratique et que ça peut pas être un appareil tout seul qui décide dans un coin. Après, il faut trouver des formes qui permettent d'éviter les manipulations qu'on a connues dans la primaire récente. Ça veut dire que, justement, dans le cadre d'un mouvement social, parce que je pense que le parti doit évoluer pour devenir un mouvement social, on viendrait pas chercher les gens à la dernière minute, mais on pourrait avoir des gens qui prennent leur carte, qui pendant plusieurs mois travaillent avec nous en compagnonnage et donc sont en capacité de voter. Et donc on n'a pas les manipulations qu'on a eues qu'on a eues à droite d'ailleurs.
Mais vous avez noté que ça a déporté vers les extrémités.
Qu'est-ce qui s'est passé
à droite et à gauche.
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la primaire de 2012, il y a une règle morale qui existait. C'est-à-dire que quand vous étiez un électeur de gauche, vous votiez dans la primaire de gauche. Bon, là, on a bien vu ce qui s'est passé. Dans la primaire de droite, plusieurs centaines de milliers d'électrices et électeurs de gauche sont venus Et de ce point de vue-là, vous voyez, pour une fois, j'ai un point d'accord avec Nicolas Sarkozy. Il avait raison de dire que ça fausse le jugement. Voilà. Mmh. Et c'était pas, c'est pareil dans la primaire de la gauche. On a vu beaucoup de gens venir voter la primaire de la gauche et qui nous disaient, mais de toute manière, je voterai pas socialiste, mais je veux éliminer Manuel Valls.
On est arrivé au terme de la première partie de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes après un point sur l'actualité. À tout de suite.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans politique avec Frédéric Rivière et notre invité Julien Drey, conseiller régional du PS en Île-de-France et porte-parole du Parti Socialiste. On parlait justement, on n'a toujours pas votre réponse sur si oui ou non vous êtes candidat ou non.
Raison de plus pour vous décider maintenant.
Voilà, non, justement. Donc on lui a même chanté
une petite... pour profiter des 4 jours qui restent.
On lui a même chanté une petite chanson, ça n'a pas marché, ouais. On ne saura pas. Mais bon, ça avance dans sa tête, c'est l'essentiel. Donc on a parlé de vos propositions pour le Parti Socialiste, une coprésidence, donc un aigle à deux têtes, c'est votre proposition et bien d'autres encore. Les propositions maintenant, les idées. Qu'est-ce qu'on met devant, dans le fond, qu'est-ce que c'est le socialisme du 21e siècle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on propose, coincé entre Mélenchon et Macron? Alors vous avez une idée, c'est taxer les GAFA. Les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, pour constituer une dotation universelle. Donc c'est un peu ce que proposait Benoît Hamon dans son revenu universel, mais vous avez proposé autre chose. Donc 50 000 euros pour chacun qui aura 18 ans, hein, c'est ça. À ces 18 ans, on toucherait 50 000 euros. Alors si on fait le calcul, il y a 780 000 naissances par an, ça fait 40 milliards d'euros par an.
38 exactement.
Une belle somme, combien ?
38 milliards.
38 milliards, voilà, vous avez fait vos calculs. Donc, belle somme, mais quand on taxe au niveau national les GAFA, bah, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller chez les voisins. Donc, est-ce que
vous pensez qu'Amazon, bah oui, Google, Apple, ils vont fermer tous leurs services en France et ils vont s'en aller ailleurs ?
Il y a des chances que, alors que Macron est en train de leur dire par ici, venez, on a tout changé, la réforme fiscale, tout va être beaucoup plus facile chez nous. C'est une façon de. Est-ce que c'est pas une façon de les repousser, en quelque sorte ? Est-ce qu'il faudrait pas faire ça au niveau européen ?
Alors, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est que le socialisme du 21e siècle ? Le socialisme, c'est le combat historique depuis le début du 19e siècle, milieu du 19e siècle, pour l'égalité, la justice sociale, pour créer les conditions de ce qu'on appelle un être émancipé. Dans le monde actuel, vous avez des individus qui ne sont plus que des objets broyés par des multinationales qui font ce qu'elles veulent. Elles arrivent même aujourd'hui à ne plus payer d'impôts. Comment le socialisme s'affronte à cette réalité-là ? Il l'accepte au nom, soi-disant, de la compétitivité, du marché, etc. C'est-à-dire qu'on est devenu que des marchandises pour toutes ces multinationales. Moi, je crois justement qu'il y a un combat. Et ce combat, je vais vous dire une chose. Au départ, tout le monde a rigolé. Tout le monde m'a même dit 50 000 euros, oh là là, c'est de la démagogie. Mais quand je pose la question, plus personne ne répond. Nous sommes aujourd'hui des actionnaires de ces sociétés. Quand va-t-on nous rémunérer ? Jamais ? Nous devons tous accepter cela ? Non, je considère que nous avons une part...
Mais concrètement, comment on les fait payer ?
On les fait payer par la dotation. Alors, il y a deux solutions. Soit on leur fait une taxe, c'est possible. Soit il y a une autre solution aussi. On fait des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez un compte personnel, et à chaque fois qu'ils utilisent vos données, ils sont obligés, comme dans la musique, ils sont obligés de verser leur obol
à... C'est faisable, ça ?
C'est faisable. Et bien, vous savez, tout ce qui apparaît au départ comme infaisable, lorsqu'on commence à avancer, après, on est dans un moment particulier, je vous dis pas que ça va se faire en 24 heures, c'est un combat. C'est un combat qui va pas se résoudre du jour au lendemain. Mais, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, c'est un combat qui va pas simplement se mener en France. Vous savez, hier, il se trouve que je parlais avec des amis à moi à l'étranger, et quand on a expliqué, on dit, ben oui, c'est vrai. C'est une vraie question. Et d'ailleurs, ils n'étaient même pas de gauche. Ils disent, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Jamais cette question-là n'a été posée. On a accepté cela. Je vous prends un autre exemple.
Mais là, vous lancez un débat en effet.
La grande distribution.
Alors, Carrefour.
La grande distribution est en train de supprimer. Dans les 5 ans à venir, il n'y aura plus une seule caissière.
Ça va être Amazon.
Voilà. Nous sommes en train de valoriser le capital, puisque c'est nous qui allons maintenant dans les machines présenter nos produits avec les barcodes et puis voilà. À quel moment on nous rémunère, puisque nous substituons à des salariés qui étaient là? On pourrait accepter s'ils baissaient les prix. S'ils disaient, comme on a supprimé, on va baisser les prix. Mais je n'ai jamais vu baisser les prix. Au contraire. Donc, nous participons de ce qu'on appelle la valorisation du capital. Il n'y a aucune... Il n'y a aucun retour. Donc, ce n'est pas un combat national. Ça, ouais. ça va commencer en France. Vous savez, la taxe Tobin, par exemple, à l'époque, ça avait commencé, comme le combat pour la justice sociale, la journée de 8 heures, il faut commencer. Mais c'est un combat essentiel.
Sur votre dotation.
Vous avez une société qui est devenue. Le monde, elle n'a jamais été aussi inégalitaire. Jamais. Ouais. Même dans les pires périodes.
Oui, et le PS n'a jamais été si bas. C'est quand même bizarre.
Ah oui, c'est pour ça qu'il faut lui redonner. Mais là, ça redonne un sens au combat socialiste. Si nous lançons un mouvement social, si des milliers de gens se disent, mais ils ont raison, eh bien, à ce moment-là, ils vont dire, les socialistes, ils sont utiles. Ils participent d'un mouvement social. Deuxième question que j'ai mis sur la table. Nous avons ce qu'on appelle maintenant l'ubérisation du travail. C'est-à-dire que le système est formidable. Maintenant, dans les entreprises, on vous dit, monte ta société. Mais à partir de là, c'est toi qui t'exploites. C'est formidable. Mmh. C'est toi qui t'as plus de journée de travail, t'as plus de... Donc, je suis pour ce que j'appelle un bloc de droits individuels à vocation collective. C'est-à-dire le droit à la santé, le droit à la retraite, garanti. Voilà. C'est des choses élémentaires. Le droit à la formation, comme on a commencé à le faire.
Mais ça,
vous voyez, c'est des combats.
Ah, je viendrai, il faut me laisser quand même poser une question.
Oui, ce que je voulais dire par là, c'est ça le combat de la modernité. C'est-à-dire penser le monde dans lequel on est et avancer des revendications face à ce monde tel qu'il est, qui sont des garanties pour les individus.
Sur la dotation, GAFA ou élargie.
Voilà, plus comme ça.
Bon, ça coûte, il faut taxer, oui, 38 ou 40 milliards. Vous la distribuez à tout Français qui atteint l'âge de 18 ans. La loi, mettons, entre en vigueur. Pour celui qui a eu 18 ans la veille, c'est pas de bol, hein.
Oui, c'est vrai. Je reconnais que cette...
Il y a quand même un truc qui va pas, non?
Oui, mais mon sentiment, c'était que c'était une revendication d'avenir. Parce que c'est aussi pas rien de pouvoir dire qu'à chaque jeune de 18 ans... si vous voulez, comment j'ai fabriqué ça? J'ai fabriqué ça dans ma tête avec... la remarque sur les algorithmes, ouais. et avec ce que Dominique Strauss-Kahn appelait le revenu d'existence. Le revenu d'existence, et donc j'ai fusionné les choses. Et je trouve, en tout cas, j'ai discuté avec plein de jeunes qui me disent, pour nous, ça serait formidable de pouvoir commencer.
Ça, c'était évident.
Ben oui, mais c'est une grande conquête d'avenir. Ce monde est tellement riche qu'il peut de temps en temps penser à sa jeunesse, au lieu de la voir comme un problème. Et on me dit, mais ils vont gaspiller l'argent si vous leur donnez 50 000 euros, c'est pas vrai. Ça dépendra des parents, ça dépendra des aides de l'école, de la manière dont on leur expliquera les choses. Et c'est une formidable garantie pour l'avenir. Et pour nous, pour nous les parents, savoir que nos enfants vont pouvoir disposer de ce capital, c'est aussi un encouragement, non ?
Oui, enfin, reste cette forme d'inégalité que j'évoquais sur le fait de l'attribuer à ceux qui auront 18 ans.
On peut prendre l'autre formule que je vous ai dit. Moi, on va en vendre...
Vous savez, avec les droits d'auteur.
Voilà. Oui. Je n'ai pas finalisé les choses de manière
définitive. Qu'est-ce qu'ils disent au Parti Socialiste, vos petits camarades, sur cette proposition ?
Je pense qu'ils doivent me regarder comme un zombie, mais ça, c'est pas nouveau.
Alors, on parlait du monde de demain, de l'ubérisation, la numérisation. Ce matin, donc, le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a annoncé un plan pour redresser son groupe avec une réduction de 2400 personnes, donc sans fermer de magasins, mais la concurrence sera sur le net. Donc le modèle économique est en train de changer. Vous dites, faut lutter ou faut accompagner le mouvement?
Mais, bon, la révolution numérique, elle est en cours et on n'arrivera pas à l'empêcher. Ouais. Donc tous ceux qui pensent qu'ils vont empêcher cela se trompent, elle gagnera. Et puis même si on arrive à gagner un temps, le temps d'eux, ils nous rattraperont. Voilà, donc il faut, c'est pour ça que j'essaye d'avoir une pensée positive, c'est-à-dire comment on fait un contrepoids. Comment on oblige ces multinationales qui profitent de la numérisation aussi?
Parce que là, ça va être Amazon, hein,
oui,
sur les
Amazon,
hypermarchés.
Et Amazon, c'est quoi? C'est pareil.
Oui, c'est un GAFA.
Voilà, c'est un GAFA. Donc, ben voilà, on va dire, puisque vous faites ça, ben, il faut donner un petit peu aux autres, aux gens. Il faut penser aux gens. Voilà. Il ne faut pas simplement que penser au capital.
Dans une autre proposition que vous faites, vous dites il faut une rupture du modèle productiviste. Ça, c'est le modèle des SK, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est la politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on produit...
Non, c'est pas ça que je veux dire, si vous permettez.
Bah,
au contraire, moi, je considère que la productivité, la compétitivité, ce sont pas des gros mots. Et de ce point de vue-là, j'étais d'accord, et je vais même dire que c'est des longues discussions que j'ai eues avec Emmanuel Macron là-dessus, l'échange a été utile de mon point de vue, parce que j'étais plutôt... comme on dit, le socialisme de la demande, quoi, hein, c'est-à-dire de la redistribution. Et je considère que justement, dans le monde dans lequel nous sommes, la question...
Il faut produire avant de redistribuer.
Voilà, il faut produire avant de distribuer. Donc il faut être...
Mais c'est ce qu'a fait Hollande, et il a eu les frondeurs sur le dos.
Mais parce
donc
que
vous serez en minorité au PS.
Non, parce que ça a peut-être été mal expliqué. Moi, je me suis battu à l'époque. Je pense qu'il y a compétitivité, productivité, c'est pas des gros mots. Ça peut pas se faire n'importe comment. Ça doit être encadré, ça doit être fait intelligemment. Par exemple, quand on fait le CICE, le fameux compte, ouais. Est-ce qu'on doit le donner à toutes les grandes entreprises qui n'en ont pas besoin, ou est-ce qu'on doit mieux le cibler sur les entreprises moyennes ou petites pour qu'elles soient plus performantes? Donc cette question-là, je pense que fait partie de notre travail. Mais j'insiste, pourquoi aussi le socialisme de l'offre? Parce que la question des conditions de la production. c'est-à-dire de ce qu'on appelle le productivisme, n'est pas une petite question aujourd'hui au regard de tout ce qu'on nous raconte et qui est vrai sur l'évolution du climat, les évolutions climatologiques. Ça veut donc dire qu'il faut inventer un nouveau mode de production. C'est ce qu'on appelle le bilan carbone. C'est-à-dire à chaque fois qu'on améliore la productivité, on doit faire le bilan carbone de l'amélioration de cette productivité. Et voyez, comme quoi je ne rejette pas toutes les idées, je pense que l'idée de Jean-Luc Mélenchon qui dit à chaque fois qu'on prend quelque chose à la planète, on doit réfléchir à la manière dont on lui rend aujourd'hui, c'est une bonne idée. Et ça doit faire partie de la construction de ce nouveau modèle de production.
Vous avez évoqué Macron, on parle d'économie. Il a reçu hier 140 patrons de multinationales au château de Versailles. Il sera demain au forum économique de Davos. Est-ce que vous lui accordez d'avoir, comme le disent ses partisans, créé un climat de confiance en France et d'avoir mené des réformes qui sont favorables à l'investissement ?
Alors, sur l'efficacité de ces réformes, je me permettrais de penser qu'il faut attendre un petit peu. Oui. Bon, pour l'instant, il bénéficie. Et c'est la réalité, elle est incontestable d'un effet de sympathie, d'une forme d'adhésion, parce que il a été en rupture avec le système, il a intelligemment mis en avant cette rupture avec le système, un système qui visiblement était à bout de souffle, il ne le savait pas, ou l'a découvert. Il a une volonté, une jeunesse qui sont mises au profit de son action, donc il y a effectivement, pour l'instant, une sorte de consensus. En tous les cas, ce que j'entends, et à juste titre d'ailleurs, les gens disent, il faut lui donner du temps pour voir s'il va réussir ou non. Le rendez-vous pour Emmanuel Macron, il n'est pas maintenant, il est dans quelques mois, pour savoir si les mesures qu'il a mises en place produisent effectivement leurs effets ou non. Je remarque simplement que en matière fiscale, pour l'instant, la feuille de route n'est pas tenue. Puisque quand on fait le bilan des prélèvements obligatoires, on va voir qu'il y a une augmentation de la fiscalité en France cette année. Alors il dit l'année prochaine, ça ira mieux, mais pour l'instant, il y a une augmentation de la fiscalité.
Vous le connaissez très bien, Emmanuel Macron.
Très bien, non, parce que vous savez, dans la vie nous a appris que des fois, on croit connaître très bien les gens et on découvre des choses après.
Qu'est-ce qui le fait avancer, selon vous ?
Ce qui le fait avancer, c'est d'abord que c'est un énorme travailleur.
Oui,
il a une force et une énergie, et puis il croit en son étoile. Ça, c'est sa force. Il croit en son étoile. Il prend sa chance tout le temps.
Oui.
Il se laisse pas impressionner.
Non, mais c'est son destin, c'est son histoire, c'est ce qu'il laissera comme trace, qui le fait marcher, qui le fait avancer.
Ça, il faudrait que vous lui fassiez une séance de psychanalyse pour moi.
J'imaginais que vous l'aviez fait moi avec lui.
Non, moi je suis pas psychanalyste. Non, moi ce qui m'a impressionné, c'était d'abord sa capacité d'écoute à l'époque, parce que il écoutait, il savait respecter les gens qui étaient en face de lui. Il n'arrivait pas avec son savoir en disant moi j'ai fait les grandes écoles, moi je sais, et donc tu dois voilà. Et notamment sur la compétitivité, je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs nuits où on s'est pas mal pris de bec l'un et l'autre sur ces choses-là.
Alors il était rapporteur de la commission Attali il y a 10 ans avec comme son nom l'indique, Jacques Attali et d'autres économistes, et dans le fond ce dossier avait disparu dans un tiroir, personne ne l'a appliqué, ni Nicolas Sarkozy qui l'avait commandé, ni François Hollande. Et dans le fond, aujourd'hui, il est resté fidèle, Macron, à cette espèce de
table
de la loi.
Je ne sais pas s'il est fidèle, mais il y avait dans la commission Attali des choses.
Il ressort cette table de la loi, quoi.
C'est une commission sur la libération de la croissance.
Voilà. Il y avait des choses. Par exemple, moi, je l'ai accompagné, et il le sait, parce que vous m'avez entendu sur les plateaux, quand il a parlé du travail du dimanche, je considérais qu'une partie de la gauche se trompait en se braquant sur le fait que le dimanche devait rester un jour qui n'avait aucune vocation marchande. Je disais, vous êtes en décalage par rapport à toutes les nouvelles générations qui considèrent que ça correspond pas à leur mode de vie.
Ouais.
Il vaut mieux essayer d'obtenir des contreparties. Et c'était tout le débat, c'est est-ce que on dit non au dimanche ou est-ce qu'on dit on obtient des contreparties et des garanties. Et de ce point de vue-là, quand il a travaillé, c'était une discussion qu'on avait, il y avait des éléments qui permettaient d'obtenir des garanties. Et j'ai discuté avec un certain nombre de jeunes dans un certain nombre de grandes surfaces qui me disaient, on nous a offert du travail, ça nous permet d'éviter d'aller faire des emplois McDo.
Mais quand je vous écoute, je me dis, mais peut-être qu'en fait, Julien Drey, il aurait plus sa place à En Marche qu'au Parti Socialiste.
Mais non, parce que vous avez vu, il y a un petit problème, c'est qu'En Marche n'est pas une formation politique. En Marche, c'est au sens traditionnel.
Non, mais bon, je parle idéologiquement.
De ce que j'appelle, c'est une formation politique. Mais moi, j'aime le débat, j'aime l'échange. Je pense d'ailleurs que le collectif est toujours plus important que les individus. Et le problème d'En Marche, c'est que c'est une structure totalement pyramidale, où de fait, il n'y a pas de vie démocratique, il n'y a pas le droit de courant, il n'y a pas les échanges, etc.
Mais est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire qu'il faut être plus à gauche pour faire une politique?
Non, pas du tout. J'ai jamais dit ça.
Non, mais c'est ce qu'on entend beaucoup. Carnouvas qui dit, il faut refaire la gauche plurielle, rose, verte, rouge.
Moi, je suis pas, vous avez vu, tout ce que j'essaye de faire, c'est pas de me tourner vers le passé. Je suis pas en train de regarder dans les rétroviseurs en disant, avant c'était mieux. Je suis en train d'essayer de créer une gauche moderne, c'est-à-dire qui réfléchit à la
numérisation.
Mais c'est ça, c'est le travail, ça a été le travail de tous les dirigeants socialistes, c'est d'être dans leur temps, de réfléchir à leur temps et de défendre des valeurs dans ce temps.
Oui. Il faut qu'on parle du mouvement des gardiens de prison qui se renforce, qui se durcit. Est-ce que vous pensez que c'est la première grosse crise sociale à laquelle va être confronté ce gouvernement ?
C'est possible parce qu'il y a un vrai ras-le-bol avec un travail qui a énormément évolué. Avec des détenus qui ont...
Que vous comprenez, ce ras-le-bol.
Oui, parce que j'ai longtemps été député d'une circonscription où se trouvait la plus grande prison d'Europe, Fleury-Mérogis. Donc je sais, j'ai vu le travail des surveillants de prison évoluer eux-mêmes. D'abord l'angoisse, parce que les détenus ont changé. Ils sont extrêmement... Il y a des comportements très violents à l'intérieur des prisons. Et donc l'angoisse, quand les gardiens vous disent quand j'ouvre l'œilleton, je sais même pas ce qu'il y a derrière, je sais pas ce qui m'est arrivé, ou quand je rentre dans une cellule, il y a aujourd'hui des détenus extrêmement violents. Il y a, d'après moi, un système judiciaire qui dysfonctionne totalement, c'est-à-dire qui reste toujours focalisé sur l'enfermement. Or, il y a toute une partie de détenus qui n'ont rien à faire en prison. Et d'ailleurs, les mettre dans les prisons, c'est créer les conditions de la récidive. Donc, il faut mieux séparer. C'est-à-dire, il faut être très ferme avec les détenus très violents, etc. Et puis, il faut éviter d'envoyer des jeunes de 18, 19 ans se mettre sous la tutelle. On avait commencé avec les centres de détenus pour les jeunes, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Quand vous avez un jeune de 19 ans qui arrive dans une prison où il y a des caïds, qui sont là, qui
font caïd.
Et ben, qu'est-ce qu'il fait pour se protéger ? Il va devenir un caïd comme les autres.
Oui.
Voilà. Et quand vous avez y compris des systèmes sociaux, parce qu'il y a aussi ces questions-là qui sont posées, la fameuse qu'on appelle cantinée, et que les jeunes, ils n'ont pas l'argent, mais qu'il y en a d'autres qui leur disent je m'en occupe. Et ça, c'est les réseaux religieux qui le font. On va te prendre en charge. Ben, souvent, d'ailleurs, vous vous protégez en allant dans ces réseaux-là. Voilà. Donc, tout le
système. Justement, sur les détenus radicalisés, il faut des mesures spécifiques,
il faut les isoler très fermement, parce que et pas simplement dans une coursive. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est qu'on les met dans une coursive et puis on considère que voilà, il faut les isoler, il faut des prisons spécialisées, adaptées à ce genre de situation. Donc, c'est des moyens, il faut être honnête, c'est des moyens. Et puis, il y a aussi une question de valorisation du travail de l'administration pénitentiaire. Souvent, avant, les surveillants, ils avaient une relation avec les détenus. Il y avait une relation humaine. Moi, j'ai souvent eu c'était ma découverte d'ailleurs, j'avais des militants socialistes qui étaient des surveillants de prison. Et ils m'expliquaient que pour une part, la main tendue à un moment donné dans une cellule, elle pouvait changer le destin d'une vie. Donc, il y a un rôle social du surveillant. Et celui-là, il faut le valoriser.
Et ça, il a disparu, ça.
Il a disparu parce que les conditions de sécurité sont telles et la violence est telle et par ailleurs, la quantité de travail est telle qu'évidemment, cette relation-là a disparu.
Et c'est un incubateur aussi du djihadisme.
Oui, c'est parce qu'il y a ce système qui dysfonctionne. Mais nous sommes là. C'est d'ailleurs pour ça que le débat doit avoir lieu sur le numerus clausus en termes de détenus. Nous sommes un pays qui est dans une fuite en avant en matière de détention. Parce que pour l'administration judiciaire, il faut condamner. Et condamner la prison. Si vous ne condamnez pas la prison, les victimes ont l'impression qu'on n'a pas fait justice. Et comme nous n'avons pas de système alternatif de qualité, notamment pour les jeunes, eh bien, on enferme. Et plus on enferme, plus on augmente le nombre de prisons. Et moins, on s'en sort. La prison est criminogène aujourd'hui.
Ouais. Peut-être une question sur l'abandon de l'Expo universelle. Ça a été annoncé par le Premier ministre. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Est-ce que vous le regrettez ?
Oui, parce que je pense que c'est un mauvais coup qui est porté à la région Île-de-France. Alors, je comprends bien ce que dit le Premier ministre. Il dit on n'a pas le financement. Mais puisqu'ils ont reçu tous les grands patrons, peut-être que la discussion aurait pu avoir lieu en leur disant on a besoin de vous pour monter cette exposition universelle. Je pense que c'était une chose utile pour la région Île-de-France. C'était une chose très utile pour le plateau de Saclay, qui était un pôle de développement technologique qui aurait pu rayonner. Et bon, maintenant, je sais que la décision est prise, mais je pense que c'est regrettable. D'autant que le président de la République s'était engagé, lui, au départ, à dire je vais défendre l'exposition universelle. Alors, je vois bien, il y a des problèmes de budgétaires, mais je pense que la solution facilité, c'était d'abandonner.
Il s'est passé 50 minutes depuis que vous êtes arrivé. Le
vous
temps a avancé.
D'avis.
Vous n'avez pas pris votre décision.
Non,
j'ai failli poser cette question.
Mais je vais vous expliquer. C'est du respect aussi que je dois à un certain nombre de responsables politiques avec qui on discute. Et je ne vais pas prendre ma décision tout seul. Leur avis va compter. Et ils comptent en ce moment. Donc, chacun, y compris sur le terrain, discute avec les militants et les militants, me disent voilà l'ambiance, voilà comment les choses se passent.
Mais c'est chaud ou c'est froid pour jouer au jeu, non, est-ce qu'on brûle ou on se refroidit?
Ah, j'en sais rien, vous verrez.
Cette question, évidemment, était un peu une boutade.
Oui.
Quoique, peut-être jamais.
On n'est pas
mais,
à l'abri.
D'un mot pour revenir sur la coprésidence, vous souhaitez que ce soit un homme, une femme.
Et c'est pas à moi de la choisir.
Voilà,
parce que sinon, ça n'a plus de sens.
Mais là, pour le coup, on peut parler d'empathie, de sympathie. Vous avez des personnalités
Parti socialiste a dans ses élus des femmes de très grande qualité et qui pourraient très bien aujourd'hui le coprésider.
Ouais,
c'est de la langue de bois et j'en resterai là.
Il y en a beaucoup, des femmes de très grande qualité.
Il y en a beaucoup. Vous en avez à la tête de ville, à la tête
c'est
de
quoi
collectivité.
Cette question
à la non, mais je vous pose
ville,
la question pour
à la tête
si
de ville,
avancer.
À la tête de collectivité locale. Et elles sont plutôt, elles ont d'ailleurs souvent traversé des épreuves électorales dures. Ouais. Et elles les ont bien assumées.
Alors, à défaut de nous l'annoncer, dites-nous comment vous allez l'annoncer.
Ah, j'en sais rien encore. J'ai pas réfléchi à ça. Parce que c'est pour moi, c'est pas la forme qui compte.
Ah oui,
voilà. C'est peut-être ça qui me distingue de d'autres camarades. Moi, pour moi, le moment, c'est un moment d'urgence. Et dans le moment d'urgence, la com, ça passe un peu après.
Bon, bah on aura vraiment essayé. Hein.
Oui, on n'est pas rentré dans le cerveau de Julien Drey.
C'est la fin de cette émission. Et merci, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, absolument, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Charlotte Tomaka et à Yvan Lénide d'avoir préparé cette émission. Et bien sûr à toute l'équipe technique. À la semaine prochaine, Frédéric. Merci Julien Drey.
Merci beaucoup à vous.